Bonjour à tout le monde, hein, bien sûr, et bienvenue à ceux qui n'étaient pas encore là, mais je pense qu'on a une fidélité quand même sur ce séminaire qui est assez importante. Donc, écoutez, le séminaire, il va pas s'achever aujourd'hui, malgré que ça soit la sixième session et la dernière session de travail sur un compte-type. Il nous reste le plus gros à faire jusqu'au mois de septembre, c'est-à-dire la synthèse de toute cette matière cumulée pendant les 6 mois qui viennent de se passer. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment un gros travail à mettre en route, hein, parce que je pense que là, on a à la fois pour la synthèse, à la fois le travail sur la matière des comptes, mais en même temps, il faut relier tout ça à des articles touchant à notre problématique sur le genre. Donc, il faut faire le pont maintenant avec le côté anthropo, sociaux, philo. Donc là, il va y avoir un gros, gros travail à mettre en route. On se fait le pari de mettre en public cette synthèse qui sera sûrement pas finie, ça j'y crois pas, parce que c'est trop vaste. Mais en tous les cas, au mois de septembre, pour les rencontres, on aura sûrement une bonne matinée de restitution pour essayer de faire entendre un petit peu ce qu'on a pu mettre en route comme hypothèse de travail. Et derrière, la grande question, c'est à quoi le conte merveilleux peut servir aujourd'hui dans cette problématique de médiation entre les genres? C'est un petit peu ça le thème du séminaire, vous l'avez bien compris. Voilà, donc on va essayer de tirer les conclusions de tout ça. Alors le thème d'aujourd'hui, c'était bien sûr le petit chaperon rouge, un conte qu'on pense tous connaître. Moi, un conte qui m'intrigue depuis bien longtemps, depuis que je travaille sur la littérature orale, parce que c'est vraiment pas plus long qu'une chanson populaire. C'est vraiment un tout petit récit, en fait. Voilà, en même temps. Moi, je suis en train de lire un petit peu les études que j'avais recensées, j'en suis à plus de 200. C'est comment une chanson populaire peut intriguer autant de monde, des anthropos, des philosophes, des littéraires, littérature comparée, des psychos, voilà. Donc, on est vraiment sur un petit récit qui fait bouger quand même beaucoup, 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 beaucoup de monde. Et c'est quand même assez intriguant, voilà. Donc, bien sûr, une fois de plus, on a les références populaires les plus connues, c'est Perrault et Grimm. Hein? Mais c'est pour moi pas les versions sur lesquelles je vais me référencer aujourd'hui, même si on en parlera sûrement un petit peu. Comment travailler sur le côté francophone, même si bien sûr on le voit, ça déborde sur le Japon très souvent. Intéressant. Moi, je me suis basé sur le recueil de version qui ont été pointées par donc Delarue, hein. Donc il y en a pas tant que ça. En fin de compte, Delarue arrive à 35 versions, hein, donc c'est pas énorme. Il est souvent prévu, enfin conçu sur ce compte-là, qu'on est la plupart du temps sur des versions franco-françaises. Bon, bizarrement, ce compte il est très identifié par rapport aux autres comptes qu'on a vus qui sont de façon très répandu dans le monde entier. Ce conte, il est quand même très très limité à une zone francophone et à quelques pays limitrophes. Voilà, mais il n'est pas très répandu en tant que tel, même si on trouve des versions en Chine et au Japon. Mais quand on fait l'analyse de ces versions, on s'aperçoit qu'ils sont plus proches des trois chevreaux, enfin, la chèvre et les chevreaux, hein. Donc je crois que c'est le 123, si je ne me trompe pas. Mais en tous les cas, ils sont plus proches de cette version-là que du petit chaperon rouge en tant que tel. Donc pour ce qui est du travail de Delarue, lui, il avait repéré, en tous les cas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose dans la mise à jour qui a été faite plus tard, une vingtaine de versions orales, voilà, qui ne doivent rien à Perrault en tant que tel. Il avait repéré deux versions inspirées directement de Perrault dans les collectes qu'il avait à l'époque, hein, et 12 versions mixtes, hein, où on a à la fois du Perrault et des versions orales mélangées. Donc, ce n'est pas énorme, hein, c'est un espace qui est. Voilà. En général, toutes les versions collectées se localisent d'ouest en est, hein, sur ce qui est le bassin de la Loire, en gros. Et ça va déborder sur un peu en Italie, dans le Tyrol, quelques versions en fin de compte dans les Alpes, voilà. Mais on va pas guère plus loin. Alors c'est intéressant cette limite géographique de la diffusion, hein, qui bien sûr après va beaucoup augmenter grâce à Perrault et à Grimm. Mais dans la collecte des versions orales, on s'aperçoit que le champ est quand même relativement limitée. Hein. Alors, on ne parle pas souvent de Grimm dans le travail anthropologique autour de ce compte-là, puisque Grimm, on sait très bien qu'il a été collecté auprès d'une personne qui avait des ascendances françaises. Hein, voilà, donc, et que quelque part, bien sûr, quand on regarde bien, la plupart des motifs que l'on retrouve chez Grimm sont des motifs que l'on retrouve chez Perrault. Donc, il y a des grandes chances que ça ait circulé. Par contre, ça a été, à un moment donné, en tous les cas sur la période de Grimm, un petit peu pensé comme une version spécifique, parce que la fin n'était pas la même. Mais on s'aperçoit que la fin, c'est vraiment celle de la chèvre et des 7 chevreaux. Donc, c'est aussi une espèce comme on dit, hein, de pollution un petit peu entre les deux contes, d'éléments qui sont de cet ordre-là. Voilà. Donc, en tous les cas, ce qui va être important pour nous, c'est de bien se poser sur cette limite et en même temps de se dire, en fait, mais qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Parce que la version de Perrault, c'est évident que, on la voit souvent sur le côté de la fable, sur le côté de la morale, mais il faut penser que Perrault, en tant que tel, lui-même connaissait bien les versions orales. Et quelque part, bien sûr, ce qu'il ne pouvait pas faire face à la société qui était la sienne, c'était d'émettre des éléments qui étaient trop choquants. Ça ne serait pas passé. Mais c'est un roi de la métaphore. C'est un roi de transformer les choses, de trouver des éléments pour dire ce qui ne peut pas être dit directement, indirectement. Et la première chose qu'il va inventer, c'est le petit chaperon rouge. Il n'y a que chez Perrault qu'il y a le petit chaperon rouge. Dans toutes les versions orales, ce n'est jamais posé en tant que tel. Mais on verra que ce n'est pas gratuit, le petit chaperon rouge chez Perrault. Ça vient aussi de toute une réflexion, hein, et de tout un montage sur la représentation de ce qu'il entendait dans les versions populaires. Voilà. Donc, pour moi, la référence de travail qui m'a beaucoup aidé depuis très longtemps pour bien comprendre le petit chaperon rouge, c'est un tout petit bouquin que vous retrouverez peut-être encore aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Ah, bien sûr, on est à l'envers, hein. Voilà. Hein. Donc, c'est le bouquin de Yvonne Verdier, hein, qui s'appelle donc Le petit chaperon rouge dans la tradition orale. Si vous trouvez ce bouquin, vous avez une des clés essentielles pour comprendre ce qui est vraiment dit dans le petit chaperon rouge. Alors, moi, ce qui me paraît important, c'est que, pour ça que je l'ai mis d'ailleurs, cette recherche me paraissait intéressante en fin de séminaire, c'est qu'elle est vraiment, sûrement un des contes les plus féminins, les plus féministes qui soient. C'est vraiment quelque chose qui va nous parler exclusivement des femmes. Et ça, c'est bon, il y a des contes aussi de cet ordre-là, mais souvent, c'est quand même pas aussi clair. Là, on est vraiment dans un cheminement qui est extrêmement précis au niveau du féminin. Alors, pour peut-être qu'on comprenne mieux ce qui est en jeu, moi, je vais faire ce que je fais souvent en formation, donc c'est-à-dire qu'ils l'ont déjà entendu sûrement, peu importe, je l'ai fait aussi en conférence, c'est vous donner une version, et puis on va prendre de cette version, on va essayer de comprendre ce qui est dit derrière les mots. Hein, voilà. Donc, je vais prendre la version traditionnelle nivernaise dans laquelle j'ai rajouté quelques clés d'autres versions, comme faisaient les conteurs à l'époque. Hein. On se nourrit de différentes versions. Voilà. Et donc, cette version, elle nous dit ça. Hein. Alors, déjà, elle nous dit que c'est une petite fille qui vient d'user 3 paires de sabots de fer. Faites ce que vous voulez avec. Hein. Mais en tous les cas, je ne vais pas vous décrypter immédiatement. Je vous laisse réfléchir ce que ça fait pour nous aujourd'hui d'entendre ce type de choses. Hein. Voilà. Dans certaines versions, elle use un habit de fer. Hein. Donc c'est déjà énigmatique, mais c'est là. Ensuite, on lui demande d'amener de la nourriture à sa grand-mère, qui est souvent dans un village de l'autre côté de la forêt.